200 millions de personnes dans le monde quittent chaque année leur région ou leur pays d'origine. 3% de la population mondiale qui change de vie. C'est un phénomène en augmentation constante. Partir pourquoi ? Pour fuir la misère, pour fuir la guerre ou pour une meilleure qualité de vie ? Vivre ailleurs, pour vivre mieux, on en parle aujourd'hui.
Rue des Entrepreneurs.
Nous sommes 63 185 925 à vivre en France. C'est le dernier chiffre publié par l'INSEE. Ce n'est pas neutre parce que ce comptage conditionne l'équipement, l'éducation, la santé et 350 autres mesures. La population a augmenté de 3 millions en 7 ans. Et si on est plus nombreux, c'est d'abord parce que l'on vit plus longtemps, mais aussi parce que l'on fait des enfants et que l'immigration se poursuit. À cela, il faut ajouter que la méthode du recensement et plus pointu. Ce boom démographique ne profite pas à tous les territoires. Si les régions littorales, méditerranéennes et atlantiques essentiellement, sont parmi les gagnantes, la Champagne Ardenne, elle, perd des habitants. La France migre aussi dans un monde en mouvement. 2% il y a 40 ans, 3% aujourd'hui de la population mondiale, c'est-à-dire 200 millions d'individus, quittent leur pays ou leur région chaque année, et chaque année, ils sont plus nombreux. 200 millions, ça représenterait le cinquième pays le plus peuplé de la planète. Pas étonnant alors qu'ils pèsent chaque jour plus lourd dans les préoccupations des politiques, des aménageurs ou des sociologues. Mobilité choisie, mais aussi mobilité contrainte, quelles sont les leçons à tirer de ces migrations et à qui profite-t-elle ? Vivre ailleurs pour vivre mieux, c'est le dossier de Rue des Entrepreneurs aujourd'hui.
Didier Hadès.
Dominique Dambert.
Bonjour. Les Français ont confiance en l'avenir. La preuve, c'est qu'ils font des enfants. Ce commentaire, on l'a souvent entendu dès lors qu'étaient publiés les derniers chiffres du recensement de 2006. Sauf que il faut savoir lire les chiffres. Michel Godet, professeur au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire de prospective stratégique.
Il faut bien voir que l'augmentation d'une population ne vient pas uniquement de l'augmentation des naissances, qui sont toujours autour de 800 000, mais elle vient surtout du fait qu'il y a un allongement de l'espérance de vie. Quand on vous voit, vous paraissez de plus en plus jeune, et ça va durer encore longtemps. Et donc, il fait que la population augmente, ce qu'on appelle le vieillissement par le haut. Ce qu'il faudrait, pas naturellement, qu'il y ait aussi le vieillissement par le bas, c'est-à-dire que la relève des générations ne soit pas assurée. Je vous rappelle que même en France aujourd'hui, malgré cette augmentation de 3 millions qui nous réjouit, eh bien la relève des générations n'est pas assurée, puisqu'aujourd'hui ceux qui partent à la retraite en gros sont des générations du baby-boom, mais ils sont remplacés par des jeunes qui sont nés après 1975 et qui sont 20% moins nombreux que ceux qui partent. Donc les problèmes de retraite, d'équilibre intergénérationnel, comme on le dit, ne sont pas complètement garantis. Il faut rappeler les chiffres quand même pour l'Europe. On va avoir besoin pour l'ensemble de l'Europe des 25 de 25 millions d'actifs en plus dans la tranche des 25-54 ans. Donc tout le problème de l'immigration choisie, est-ce qu'on fait venir d'ailleurs des gens qui viennent pour travailler et s'intégrer par le travail avec leur famille, ou est-ce que on continue à faire venir des populations qui sont pas nécessairement en situation de travail et qui sont en position plus d'assistance, hein. Ça pose des problèmes. Et c'est pas une question d'origine des populations. Vous savez qu'en France, le taux de chômage des étrangers est trois fois plus élevé que celui des nationaux, mais en Espagne, le taux de chômage des mêmes étrangers, quand vous prenez les Maghrébins par exemple, est plus faible que celui des Espagnols. Donc c'est pas l'origine qui explique le chômage. C'est le traitement qu'on en fait dans les pays en question. Chez nous, l'immigration, un peu trop souvent de guichet, comme on dit, alors qu'en Espagne, il y a une immigration de travail. Alors même si aujourd'hui, l'Espagne est en crise, et on va voir comment elle traite, si elle traite correctement ses immigrés. Donc je crois que vis-à-vis de ces questions, on a besoin de ces populations. On peut se poser aussi la question de l'origine. Moi, je crois qu'il n'y a plus de Portugais, et il y a longtemps que j'ai dit qu'on devrait favoriser l'immigration en provenance d'Amérique latine. Vous savez que l'Amérique latine va augmenter une fois et demie plus que l'ensemble de la rive sud de la Méditerranée. Donc il y a une dynamique très forte de populations qui considèrent que l'Europe, c'est leur deuxième patrie. Donc ils sont plus tournés vers l'Europe que vers l'Amérique du Nord. On devrait tenir compte de ces racines historiques qui posent pas tellement de problèmes d'intégration, il faut bien le reconnaître. Donc on a besoin de ces populations. L'Europe de l'Est n'est pas une ressource, car l'Europe de l'Est est complètement asséchée. Vous savez qu'il y a un déclin démographique, un vieillissement très fort. Et donc la Roumanie a perdu le quart de sa jeunesse, qui sont partis à l'Ouest. Donc c'est une véritable saignée qui va leur poser d'énormes problèmes et qu'on va récupérer puisqu'ils sont dans l'Europe maintenant. Donc on va être solidaires d'une certaine manière. Donc l'Est n'est pas un réservoir. On doit avoir, donc c'est pour ça que j'étais depuis le départ, comme vous le savez, en faveur d'une politique familiale volontariste chez nous, car il faut le maximum d'enfants nés au pays pour favoriser l'intégration dans les écoles de ces flux migratoires qui vont arriver et qu'il faudra donc intégrée par la mixité, parce que je crois que s'il n'y a pas de mélange, eh bien on ne réussit pas à faire l'intégration, on crée des zones d'exclusion, des zones de ghetto, et c'est ça les messages que je tire en tant que prospectiviste. On pourrait me dire, dans 10 ou 15 ans, mais monsieur Godet, pourquoi n'avez-vous pas tiré les sonnettes d'alarme ?
L'immigration, c'est une chance pour la France ?
Ah ben moi, je pense que c'est une chance, de toute façon, l'histoire a montré que lorsque les gens migrent, eh bien, il y a une forme de sélection naturelle. Ceux qui migrent, ils sont porteurs de projets. Ils se sont eux-mêmes auto-sélectionnés, en quelque sorte. Ils vivent des choses dures, mais aussi, dans la vie, ils sont plus entreprenants. Ils peuvent apporter une richesse et une diversité. À condition, naturellement, qu'on arrive à les éduquer et qu'on arrive à les intégrer, même si, parfois, ça fait des étincelles. On a eu ça avec les Italiens, les Polonais, il y a quelques décennies. Donc, on a un problème, aujourd'hui, qu'il faut bien reconnaître, c'est que on souhaite traiter ce problème de l'intégration, mais en refusant de mesurer, comme l'a dit la Cour des comptes. Comment traiter d'un problème qu'on refuse de mesurer? Alors, on refuse de mesurer parce qu'une fois que quelqu'un a une nationalité française, et il y en a 140 000 de plus par an, eh bien, on n'a plus le droit de le traiter différemment sur le plan statistique.
C'est-à-dire, en clair, on s'interdit de compter les populations d'origine immigrée.
Oui, on s'interdit de les compter. On sait même, mais contrairement à même ce qui se passe en Espagne ou même chez nous en Alsace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de registres municipaux. Hein, depuis l'histoire de Vichy et de la Ralph du Veldiv, c'est un sujet un peu tabou, je le comprends bien. Mais on a des droits quand on est étranger, même quand on est clandestin. Vous pouvez inscrire votre enfant à l'école, une fois qu'il est inscrit, on ne peut plus vous mettre dehors. Et on voit bien qu'il y a des contradictions dans notre système, qu'il y a certaines limites, hein, qui posent des problèmes de conscience. D'ailleurs, ce n'est pas facile à traiter comme problème. Mais vous avez des droits dans une municipalité, mais vous n'avez même pas le devoir de vous faire enregistrer. Ce qui n'est pas le cas, naturellement, dans des pays comme l'Espagne.
Effet direct de la mondialisation, les marchandises et les capitaux circulent librement, les hommes beaucoup moins. Mais la mobilité géographique s'accroît. Ce qui frappe cependant, c'est que les migrations ne sont plus que des mouvements du sud vers le nord, elles sont aussi de plus en plus des mouvements à travers le sud. Dans le nouvel atlas des migrations publié aux éditions Autrement, Catherine Vitold-Vanden, directrice de recherche au CERI, le CERI c'est le Centre d'études et de recherche internationale, dresse les grandes tendances de ces flux migratoires mondiaux et en tire les conséquences.
Les chiffres bougent chaque année. Par exemple, les transferts de fonds des migrants qui étaient autour de 150 milliards de dollars, aujourd'hui ont dépassé les 300 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est colossal, c'est trois fois.
Presque 10 ans.
Voilà, oui, même pas en 4 ans. Et c'est, en termes d'aide au développement, c'est trois fois l'aide au développement. C'est-à-dire les migrants envoient trois fois plus d'argent dans leur pays que l'aide au développement ne peut fournir à ces mêmes pays. Autre élément, on a un peu plus de chiffres sur toute une série de pays. On avait beaucoup de difficultés pour représenter les choses en 2005, pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, pour certains pays d'Asie. Maintenant, certains pays d'Asie commencent à donner des chiffres, par exemple, sur leur migration. On a de plus en plus d'études sur des pays du tiers-monde. Donc, il y a des choses qui sont mieux connues. Autre élément, il y a des thématiques nouvelles qui sont apparues, comme les réfugiés environnementaux, la fameuse gouvernance mondiale des migrations, les relations entre migration et développement, et toute une série de nouvelles mobilités dans des coins et des recoins du monde qui ont pu être mises en avant dans cet atlas et qui n'existaient pas dans l'atlas 2005.
Et globalement, le monde est de plus en plus en mouvement.
Tout à fait. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 200 millions de personnes migrantes dans le monde, toutes catégories confondues.
Ça fait 3%.
De la population mondiale, et on était à 150 millions de personnes à la fin des années 90.
Et ça, c'est entre autres parce que les avions sont devenus accessibles,
oui,
les bateaux,
parce que,
enfin, le transport,
oui,
tout simplement.
Et puis que les gens ont des passeports aussi, la généralisation des passeports à peu près partout dans le monde. Donc l'autorisation de sortir de chez soi, même si l'autorisation d'entrée est plus difficile. L'information, on regarde la télévision, on écoute la radio, on peut être sur Internet quand on a l'électricité, on voit ce que rapportent les migrants. Donc les gens n'acceptent plus le malheur d'être nés dans un pays pauvre et mal gouverné. Et ça, c'est une grande différence par rapport à il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Le déterminisme et le fatalisme ne sont plus de mise. Et ceux qui considèrent qu'ils sont nés dans des pays de cette nature considèrent qu'ils ont autre chose à faire et à changer leur vie ailleurs en partant.
Mais ceux qui partent, c'est quand même souvent par nécessité, non ?
Oui, mais c'est une nécessité qui n'est pas nécessairement une nécessité immédiate. C'est-à-dire, ce ne sont pas les plus pauvres, ce n'est pas nécessairement là où la pression démographique est la plus forte. Ce sont des gens qui sont informés, qui ont un projet migratoire et qui ont un projet individuel. On ne part plus parce qu'on se dit j'ai une famille sur le dos et il faut que je prenne en charge cette famille, mais parce qu'on veut réaliser son projet. Beaucoup de migrants sont des entrepreneurs d'eux-mêmes. Ils ont un idéal, disons, qu'ils veulent réaliser. Ils sont capables très souvent de mourir pour réaliser cet idéal. Il y a beaucoup de morts aux portes de l'Europe, par exemple, parce que les gens ont une vraie volonté de changer de vie. Et ils considèrent qu'avec la migration, ils sont capables de changer de vie.
Ça, on a connu la même chose aux États-Unis, dans cette fameuse ruée vers l'Ouest.
Exactement. On est un petit peu dans cette configuration pour des pays qui bougeaient peu dans le passé. L'Afrique, par exemple, qui s'urbanise à grands pas, qui aura 2 milliards d'habitants dans le courant du 21e siècle. Voilà. Et puis l'Asie, qui est en très grande mobilité aujourd'hui, et l'Amérique latine, qui bouge surtout vers l'Amérique du Nord.
Mais là, on en revient malgré tout à des migrations plus ou moins forcées. En toute état de cause, ce sont des immigrants, c'est-à-dire ce sont des gens qui s'en vont.
Ce sont des gens qui s'en vont, mais ce sont des gens qui aspirent à bouger.
Ailleurs.
Pas nécessairement. Ce qu'on voit, c'est certains disent l'idéal, c'est la circulation migratoire. Des gens qui font des allers et retours. Et ceux qui font des allers et retours, c'est des gens qui ont souvent des statuts relativement confortables. Double nationalité, des statuts de résident de longue durée, des visas entrée multiples, etc. Et les gens de l'Est aussi. Aujourd'hui, les migrants d'Europe de l'Est qui ont eu pour certains la liberté enfin de travailler et d'autres qui l'attendent encore comme les Roumains et les Bulgares, sont dans cette migration pendulaire. Et très souvent, c'est très bénéfique pour eux, pour les pays d'accueil, mais aussi pour les pays de départ, parce qu'ils gardent le lien, le fameux lien migratoire. Et du côté de la rive sud de la Méditerranée, beaucoup de migrants aspirent à être des circulants, à vivre en permanence dans la mobilité comme mode de vie. Mais ils ne peuvent pas toujours à cause des visas et à cause de leur statut qui ne leur permet pas toujours.
Parfois, ça crée des problèmes aussi, comme les Polonais en Irlande, qui sont arrivés massivement en Irlande, qui ont acheté des maisons et qui massivement les ont revendues, d'où la crise immobilière, pas liée au subprime, mais liée justement à ce fait-là.
Oui, c'est encore difficile de dire quels seront les effets de la crise financière sur la migration. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un phénomène de retour des Polonais dans leur pays, mais ils ont toujours bougé. Ça a toujours été quand même une migration pendulaire. D'autre part, beaucoup de migrants travaillent dans des secteurs qui sont sensibles, comme l'automobile ou le bâtiment, qui sont frappés par la crise, et on peut s'attendre à soit des retours, soit une situation de crise dans ces secteurs d'activité.
L'influence des migrants sur leur environnement est fonction de facteurs multiples, à commencer par les circonstances qui les ont poussés ou attirés, qu'elles soient politiques, économiques ou climatiques. Il y a un an, selon les Nations Unies, les immigrés représentaient à peu près 1% de la population en Amérique latine ou en Asie, 2% en Afrique, 9% en Europe et 14% en Amérique du Nord. À peu près parce que les statistiques, eh bien c'est la chose en matière de migration et en matière de population, la chose du monde la plus difficile à établir. Les chiffres sont essentiels, ils sont même solennels en France, ils font l'objet d'un décret pour les rendre officiels. Olivier Lefebvre, chef du département de la démographie de l'INSEE.
Alors un recensement, ça sert à compter la population de la France et de chacune des communes. Au-delà de ça, savoir combien il y a d'habitants dans chaque commune, ça permet de déterminer la composition de son conseil municipal, le nombre de conseillers municipaux. Ça permet de calculer les dotations que l'État va verser chaque année aux communes. Dans un registre différent, cela permet de gérer les modalités d'implantation des pharmacies. Donc là, ça touche plus à la vie quotidienne de chacun. Un point d'actualité, on parle du redécoupage électoral, il est fondé sur les données du dernier recensement. Au total, il y a plus de 350 textes qui font référence à la notion de population. Donc, quand même, des implications très, très étendues. Au-delà de combien sommes-nous, le recensement, ça permet aussi de nous décrire, de déterminer la part des jeunes, la part des personnes âgées, de savoir quels sont nos déplacements entre le domicile et le lieu d'études, le domicile et le lieu de travail, de connaître la structure des qualifications, etc. Ces données-là, elles vont servir pour éclairer des décisions d'investissement ou d'implantation de services publics. Les déplacements domicile-travail, c'est important pour configurer un réseau de transport en commun, par exemple.
L'établissement de maisons de retraite, par exemple,
voilà,
aussi.
La proportion de personnes âgées, c'est important pour savoir où localiser les maisons de retraite. ça sert également, cette connaissance précise de la population, pour l'implantation de commerces ou l'implantation de services ou l'implantation d'équipements en fonction de la main-d'œuvre disponible.
Mais il y a toujours un décalage entre le moment où l'INSEE nous donne les résultats et puis le moment où on engage tous ces travaux. Donc, et dans un pays ou dans un monde qui a la bougeotte d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de décalage sans arrêt ?
C'est justement pour éviter ce risque de décalage que l'INSEE a changé sa méthode de recensement. Avant, on faisait des recensements généraux, c'est-à-dire qu'on comptait tout le monde au même moment. Et comme c'était des opérations très lourdes, ces recensements généraux, on les faisait tous les 7, 8, 9 ans. Et donc le risque, hein, c'est qu'on prenait des décisions sur la base de photos qui avaient quand même vieilli. Là, avec la nouvelle méthode de recensement, on a un décalage, mais surtout on peut actualiser, rafraîchir notre photo tous les ans. Et donc, globalement, on prend des décisions sur la base d'informations qui sont plus récentes.
C'est-à-dire qu'un cinquième de la population française est mise à jour d'une certaine façon chaque année.
C'est-à-dire qu'on met à jour la population de la France et de chacune de ses communes à partir de l'information que l'on a collectée au cours de l'enquête de recensement de l'année et également d'autres informations comme l'actualisation du répertoire de logements dans chacune des communes de plus de 10 000 habitants et l'utilisation de données de la taxe d'habitation. Donc, chaque année, sur la base d'une information très récente, on actualise les chiffres de population.
Ailleurs pour vivre mieux, c'est le dossier de Rue des Entrepreneurs ce matin sur France Inter. Didier Hadès, Dominique Dambert.
Les mobilités géographiques et professionnelles sont aussi des défis à relever pour les aménageurs et les urbanistes. Et dans ce domaine, il faut éviter la pensée unique. François Hacher, professeur à l'Institut français d'urbanisme et auteur des nouveaux compromis urbains aux éditions de l'Aube.
On a dans cette question de la mobilité des visions qui sont souvent très idéologiques et quasi religieuses. Et par exemple, l'économie des rejets de carbone est quelque chose de très complexe, que les habitants de Paris rejettent beaucoup plus de carbone par leur mode de vie et leur week-end que les habitants des couches moyennes ou modestes qui habitent en périphérie ou en pavillon. La voiture électrique, par exemple, pourrait être une solution partielle dans un pays comme la France, parce que l'électricité est largement nucléaire, mais que dans beaucoup d'autres pays, elle serait catastrophique parce qu'elle est produite par des centrales qui sont moins performantes que les moteurs à explosion des voitures. Bon. Donc, il est difficile de tenir des raisonnements globaux et très honnêtement, les calculs économétriques visant à démontrer la supériorité de la ville dense sur la ville plus éparse ou le contraire sont pas convaincants. Je crois que c'est des compromis plus d'ordre politique et sociaux. Il faut arriver à faire un compromis entre la demande des habitants et leur rêve de maison individuelle et les exigences écologiques qui sont réelles. Et ces compromis, on les fera différemment selon les différents quartiers de la ville. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la ville en France. Chaque ville est composée d'une variété de villes et de modes de vie. Il y a les gens qui vivent dans le centre. Ils sont dans le centre parce qu'ils utilisent beaucoup les équipements centraux. Et c'est surtout des couches supérieures. Et puis, il y a les gens qui vivent dans des pavillons en périphérie et qui ne vont dans le centre-ville que pour les soldes ou pour montrer la cathédrale à des amis qui viennent de province, mais qui n'ont pas d'usage de la centralité, de la gare TGV, de l'opéra et de ce genre de choses. et pour qui habiter dans une maison individuelle en périphérie est adéquat à leurs demandes. Et ces gens, ils ne reviendront pas dans le centre-ville et il n'y aura jamais un tramway qui ira de leur lotissement vers la zone industrielle à 40 km de là, à laquelle ils vont travailler. Donc il faudra trouver une variété de moyens et de solutions pour les différents types de villes et de modes de vie qui coexistent aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, il y a des choses qui changent quand même, François Hachère, parce que vous avez des cadres supérieurs qui, grâce au TGV, habitent dans la Drôme, autour d'Aix-en-Provence, donc
et
en pleine campagne.
Ils travaillent 2 jours ou 4 jours par semaine à Paris.
Oui, absolument. Il y a une diversification des modes de vie. Il y a des gens qui vont habiter très loin à la campagne, dans des zones véritablement rurales, et qui continuent d'être des urbains parce qu'ils utilisent beaucoup les technologies d'information et de la communication. Donc aujourd'hui, on a une variété de plus en plus grande des modes de vie. Mon collègue Jean Viard dit aujourd'hui, en fait, il y a une seule grande métropole qui est la France. C'est un peu exagéré, mais on peut le considérer comme cela... aussi, en tout cas pour des pays un petit peu plus petits, la Suisse est devenue une grande conurbation urbaine. Et de fait, les trains ont été conçus de telle manière qu'on puisse faire l'aller et retour de n'importe quel point en Suisse à n'importe quel autre point en Suisse. Donc il y a bien cette intégration d'une ville d'une autre dimension qui comporte à la fois des centres-villes très protégés en Suisse et à la fois des espaces campagnards et à la fois de la maison individuelle. Donc c'est cette variété qu'il faut être capable d'organiser et de gérer.
Et pour cela, il faut peut-être aussi changer nos unités de valeur. Nous savons tous que ce ne sont plus les kilomètres qui définissent la distance d'une ville à l'autre, mais le temps de parcours. La carte de France, au passage, vue au départ de Paris en utilisant le TGV, fait de Lyon, Lille ou Metz-Nancy des banlieues, alors que Brest reste une expédition. Idem pour les migrations, selon les âges de la vie. Et brutalement, eh bien, c'est l'attractivité du territoire qui est l'élément déterminant. Michel Godet, démographe, sociologue, professeur au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de prospective stratégique.
D'abord, la première remarque à faire, c'est de relever que c'est le nord de la France qui est plus fécond que le sud. Peut-être que les conditions climatiques incitent plus au rapprochement pour se réchauffer. Mais le sud se peuple beaucoup plus que le nord. Ce qui veut dire que donc, les gens, quand ils sont adultes, et notamment,
ils s'en vont,
et notamment les retraités. Alors, ceci dit, il faut relativiser le phénomène des retraités. Parce que, globalement, pour toutes les régions de France, à l'exception de l'Île-de-France, 95% des retraités restent dans la région où ils vivaient. Donc, le phénomène de migration des retraités ne concerne que les retraités venus d'Île-de-France, et eux, c'est le quart d'entre eux qui fuient l'Île-de-France. Pour des raisons de qualité de vie, de conditions de vie, et aussi de coût de la vie. Alors ce qui est assez intéressant quand on regarde les évolutions récentes et qui confirment les évolutions antérieures, c'est que ces franciliens autochtones, quelqu'un qui vivait en Île-de-France dans les précédents recensements et qui s'en vont, ils s'en vont pour toutes les catégories de métiers. Les ouvriers, les employés, les cadres viennent de moins en moins. Le jeune cadre, c'est très difficile de le faire monter à Paris. Et à Paris, vous avez de plus en plus une tendance à avoir des jeunes qui font des études, qui restent 3 ou 4 années, mais dès qu'ils constituent un couple, eh bien, ils vont installer leur nid ailleurs, pour des raisons de coût aussi du foncier, mais aussi de qualité de vie, et du fait que on a réussi la décentralisation, et que vivre aujourd'hui à Lyon, à Toulouse ou à Nantes, c'est des qualités de vie qui paraissent bien meilleures à beaucoup de gens. Alors quand on regarde les chiffres, ça c'est intéressant, parce qu'on voit que les ouvriers, les employés, c'est des actifs. Ils vont s'installer dans l'Ouest et dans le Centre. Les cadres, il y a l'effet TGV, ben ils vont plutôt jouer la carte Aix-en-Provence ou autre. Parce que vous pouvez aujourd'hui, faites le calcul, c'est simple, avec la RTT d'ailleurs, et les travails à distance, vous pouvez très bien passer 4 jours à Paris en n'étant que 2 nuits par semaine à Paris. Vous y êtes le mardi soir et vous y êtes donc vous êtes le lundi et le mardi. Vous rentrez chez vous le mercredi, le jour des enfants, et vous faites un peu de travail à distance. Et vous revenez passer jeudi soir. Donc vous passez plus que 2 nuits. Et vous transformez complètement la dynamique résidence principale, résidence secondaire. Et beaucoup de cas des grandes entreprises publiques, type EDF ou autres, lorsqu'ils sont mutés, comme on dit, à Paris, eh bien ils laissent leur famille à Dijon, à Nantes, à Bordeaux, etc. Et ils font la navette. Et c'est même payé par l'employeur. Donc je crois qu'il y a cette tendance à vouloir aller vivre dans des lieux que j'appelle des lieux de qualité de vie. Et là, il faut reconnaître qu'on s'est tous... Enfin, les prospectivistes...
Sont tous trompés
quand on imaginait, vous savez, le fameux croissant fertile il y a 20 ans, ou les cartes de la Datar, qui extrapolaient les recensements précédents et on voyait la diagonale du vide. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de zones qui se dépeuplent. Hein. Les retraités et les RTT repeuplent les territoires, avec l'effet TGV aussi. Et très franchement, vous pouvez vivre sur Nantes, ou Angers, ou Le Mans, et puis travailler à Paris, vous faites des navettes.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec la mondialisation et l'accélération des temps, les choses deviennent un peu imprévisibles. Est-ce qu'on peut prévoir dans ce domaine ?
Bon, là où les prospectivistes se sont trompés, mais je ne me sens pas plus responsable que les autres parce que je n'avais pas travaillé sur ces questions particulièrement à l'époque, c'est qu'ils voyaient effectivement, ils avaient une vision de l'économie portée par l'industrie, par les grandes métropoles, et ils imaginaient que tout allait se concentrer dans ce qu'on appelait le croissant fertile européen, et d'où d'ailleurs on avait développé le concept d'arc atlantique pour essayer de faire contrepoids. Mais l'arc atlantique, on l'a inventé, mais il était en train de se faire tout seul, parce que ce qu'on découvre maintenant, et notamment les travaux de notre collègue Davzy l'ont bien montré, ce qu'on découvre, c'est que les pôles de compétitivité, c'est important, mais c'est pas l'essentiel, car en réalité, quand vous regardez un territoire, il y a 30% des revenus qui sont des revenus de retraite, il y a 30% des revenus qui sont des revenus de fonctionnaires, donc ça fait 60% des revenus de transfert, il reste 40% de revenus liés à la production marchande, dont la moitié est une production marchande au service des gens qui sont là, et donc, à côté des pôles de compétitivité dont tout le monde parle à juste titre, il faut aussi regarder les pôles d'attractivité, les pôles qui font que les gens ont envie d'y venir et vivre, parce que c'est là qu'est la qualité de vie, et dans la qualité de vie, je mets aussi la cohésion sociale. Quand vous regardez aujourd'hui, vous rêvez de territoires où il y a moins de 3% de chômeurs, eh bien, vous les avez déjà en France. Le rêve est déjà réalité. Mais vous l'avez en Vendée, là où il n'y a jamais eu de chemin de fer. Il y a des réseaux de bourgs, ruraux, Pouzauges, Montaigu, Les Herbiers, où l'industrialisation, l'activité s'est faite à partir d'hommes, dans un lieu qui avait une cohésion sociale forte. Là, vous avez la même chose en Mayenne. La Mayenne qui est un des territoires les plus pauvres de France, mais là aussi où il y a le moins de pauvres, c'est les inégalités sont les plus faibles. Donc il y a de la cohésion sociale. Et donc, il y a du développement, parce qu'il y a des gens qui vivent dans un lieu qui est propice à la construction de projets et à la qualité de vie qui donne envie d'y vivre, de s'y développer et de s'y épanouir. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. C'est que les pôles de compétitivité, c'est bien, mais il faut aussi des pôles de qualité de vie. Et les régions qui s'en tirent le mieux, les territoires qui s'en tirent le mieux aujourd'hui, ben c'est Rhône-Alpes, parce que vous avez la conjonction des deux. La tradition industrielle des vallées savoyardes, mais vous avez aussi le tourisme, Annecy qui est une des villes les plus chères, ça pose d'énormes problèmes aussi ensuite. Vous avez des gens riches qui viennent s'y installer, mais vous pouvez plus loger les personnels qui pourraient les servir. Donc là encore, il faut de l'interventionnisme public pour construire cette mixité sociale, autrement, on a ce qu'on constate, c'est-à-dire que les moins riches des riches sont obligés de s'en aller ailleurs. C'est assez curieux, c'est une erreur colossale de tous les aménageurs du territoire. Ils n'ont pas vu que le principal facteur d'aménagement du territoire et de répartition équilibrée des populations sur le territoire, c'était les inégalités de patrimoine. Parce que les moins riches des riches, ils sont riches en capital et pauvres en revenus, et ils vendent leurs biens à La Rochelle, à Montpellier ou à Biarritz, et ils vont s'installer, pas à Pau parce que c'est trop cher, ils vont s'installer à Tarbes, qui est affecté par le GIAT, mais qui est justement libéré du foncier. Les Pyrénées sont aussi belles vues de Tarbes que de Pau, comme ils disent là-bas. Et en plus, c'est plat, quand on vieillit, c'est bien pour faire du vélo. Et ceci, donc, permet d'accéder à un niveau de vie plus élevé, puisqu'on a liquidé une partie de son patrimoine, à des services aux personnes qui sont plus faciles, parce que le foncier étant moins cher, il y a des employés, des ouvriers qui vivent encore sur place. Et donc, on voit bien que les inégalités de revenus et de patrimoine contribuent, sans qu'on l'ait décidé, mais naturellement, à une meilleure répartition des populations sur le territoire.
De plus en plus, les individus sont acteurs de leur mobilité, constate Catherine Vitold de Vanden, directrice de recherche au CERIL. CERIL, c'est le Centre d'études et de recherche internationale, qui vient de publier l'Atlas mondial des migrations aux éditions Autrement. Les gens refusent le déterminisme consistant à rester dans des pays qu'ils considèrent sans avenir, ajoute-t-elle. Certes, mais les frontières sont parfois difficiles à franchir pour ceux qui aspirent à vivre ailleurs, pour vivre au mieux ou tout simplement survivre. Ouvrir ou fermer les frontières, telle est la question que les politiques ont du mal à trancher, oscillant entre immigration zéro et immigration choisie. Catherine Vitold de Vanden.
Je crois que le Front National a joué quand même un très grand rôle entre 1983 jusqu'à aujourd'hui dans la construction de ces peurs collectives. Et les décideurs successifs, aussi bien à droite qu'à gauche, ont eu surtout le souci de ne pas attiser cette peur et de faire monter le Front National. Ce qui explique que les politiques d'immigration ont été très dépendantes de l'opinion publique et plus particulièrement des positions du Front National en la matière. Et donc, on est dans une politique qui a été largement restrictive depuis cette période.
D'où le fait qu'on hésite à régulariser, contrairement
Absolument.
À certains pays qui l'ont fait.
Absolument. Il y a une grande frilosité à l'égard des régularisations, à l'égard du droit de vote des étrangers, à l'égard de toute une série des visas, etc., à cause de cette idée que le Front National va monter ou l'extrême droite va monter si on a une politique un peu... plus audacieuse.
Bon, et ça c'est typiquement français, mais chez nos voisins européens, je pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, enfin d'abord l'Europe des 6, ensuite avant d'aller à celle des 27, l'attitude est la même ?
On a eu des hauts et des bas. Disons que les Italiens et les Espagnols ont une immigration qui est récente, qui date du milieu des années 80. Et l'essentiel de leur politique d'entrée, ça a été les politiques de régularisation massive. La plupart des migrants en Italie ou en Espagne ont été dérégularisés d'une période ou d'une autre. Donc c'est leur politique d'entrée, si j'ose dire, pareil au Portugal ou en Grèce. Mais en même temps, il y a eu des coups de frein qui ont été donnés pendant les différentes périodes. Je ne suis pas sûre que le clivage droite-gauche soit si important que ça. Parce que là aussi, il y a une autre forme de dépendance à l'égard de l'opinion publique qui est la question démographique. Par exemple, le gouvernement de Berlusconi en 2005 a régularisé massivement les femmes sans papier parce qu'elles gardaient des personnes âgées, et c'est un phénomène qui concerne tous les Italiens et notamment les électeurs de monsieur Berlusconi. Donc ça explique une politique qui affiche la dureté mais qui en même temps est obligée de tenir compte du quotidien. En Espagne, on a régularisé beaucoup de sans-papiers parce que c'est l'agriculture qui est quand même très très importante en Espagne, c'est le tourisme, autre secteur extrêmement actif en Espagne, le bâtiment. Donc, quelle que soit la tendance gouvernementale, ça s'est passé sous monsieur Zapatero, mais d'autres gouvernements auraient pu faire la même chose. Aujourd'hui, l'Espagne est en crise, donc elle a tendance à avoir une politique plus restrictive en la matière, notamment à l'égard du contrôle des frontières. Mais le pragmatisme, parfois, l'emporte sur la peur de l'opinion publique.
Le pragmatisme ou les considérations économiques avant les considérations humanitaires ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un déclin de la demande d'asile, par exemple, vers l'Europe. Et je pense que la dureté des politiques d'asile y est pour quelque chose.
Dossier de Rue des Entrepreneurs sur France Inter. Ce matin, vivre ailleurs pour vivre mieux. Dominique Dambert, Didier Hadès.
Avec les progrès de la mondialisation, les performances techniques des moyens de transport, la déferlante des technologies de l'information, les migrations donnent l'impression de se banaliser. Et dans le même temps, on voit bien comment ces mouvements font peur aux États. Là aussi, il y a ceux qui peuvent bouger et puis il y a les autres. Jean Viard est sociologue, il est directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Il est aussi l'auteur d'un éloge de la mobilité à paraître dans quelques semaines aux éditions de l'Aube.
Dans le monde d'aujourd'hui, il faut dire les choses. Il y a des gens qui ont le droit à la mobilité. En gros, c'est nous. On peut aller passer, par exemple, nos vacances n'importe où sur la planète, on pourra avoir un visa immédiatement.
Donc d'abord parce qu'on peut sortir très facilement du pays.
Tout à fait, mais il n'est pas réciproque. On va dans des pays, mais les gens du pays, eux-mêmes, ne peuvent pas aller demander un visa pour la France. Et y compris, une partie de la migration vient du fait que les gens, s'ils repartent chez eux, ils ne pourraient plus revenir. Et donc, on est là dans un système où la mobilité n'est pas organisée de manière symétrique. Pour dire les choses simplement, je crois que l'avenir, c'est la mobilité. C'est-à-dire, l'avenir, c'est pas la migration. La migration, c'est un échec, au fond, c'est une souffrance. Alors, la mobilité, ça peut être pour le tourisme, pour les études, pour travailler pendant 10 ans, pour la santé. Ça peut... Mais, au fond, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir de chez eux par choix ? En général, pas tellement, ou à une époque, à un moment, à une période, comme nos gamins qui vont avec Erasmus aux États-Unis.
Et l'avenir, c'est de revenir chez soi ?
L'avenir, c'est de pouvoir revenir chez soi. Ne pas pouvoir y revenir ou en être chassé me semble effectivement deux choses qui ne sont pas logiques. Les hommes ont des identités. Et je crois que, si vous voulez, ces identités, elles sont héritées, elles sont transmises. Alors, on a peur un peu du mot identité. En plus, si vous voulez, souvent, les identités, ça a été remis par l'extrême droite dans la scène publique. Et moi, je crois que le monde moderne, c'est le monde de la diversité. Donc, une interrogation sur les identités, avec l'idée qu'on est tous multi-appartenants. Et que les appartenances monistes de l'époque des grandes nations, des nationalismes, etc., en fait, elles sont derrière nous. On est multi-appartenants dans notre couleur, notre religion, notre origine. Et comprendre qu'on va vers un monde, effectivement, de ces diversités. Et que ces diversités, elles sont entre cultures, entre continents, mais aussi à l'intérieur de notre propre société. Et c'est là où on a presque le plus de mal à les vivre. Parce que dire c'est différent d'être français et d'être malien, tout le monde trouvera ça tout à fait normal. Mais dire après, oui, mais il y a des Français qui sont de Bamako, il y a des Français qui sont de Bretagne. Et comment ça se fait, avoir des papiers français, etc., être noir, être blanc, avoir une religion, une autre. Et donc comment cette diversité, petit à petit, on accepte qu'elle retravaille ce qui nous réunit, notre commun, parce qu'on a du commun dans un pays, dans une nation. Comment accepter ça? C'est ce qu'en ce moment, on a du mal à faire.
Est-ce que l'on va, au bout du compte, vers peut-être une culture commune aussi, à cause de ces migrations ou grâce à ces migrations? Vous disiez, est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir là où je suis né, où là j'ai passé mon enfance?
Non, moi je crois que je dirais, vous savez, ce que l'homme a créé de plus extraordinaire depuis des millénaires, c'est la diversité de ses cultures. C'est-à-dire qu'on a déplacé au fond une même espèce dans des territoires géographiques différents, à des époques différentes de l'évolution de l'homme. Et chaque fois, on en a construit une culture. Et ce stock de différences, c'est notre patrimoine commun. Chaque fois qu'il y a une culture qui disparaît, c'est encore pire que quand disparaît une espèce d'escargot. Et donc, si vous voulez, ce stock, on ne pourra plus le recréer, parce que maintenant, on est connecté. Et donc, la grande question, c'est comment protéger ce stock de création qui a fait l'humanité depuis des milliers d'années, et en même temps, qu'il y ait une part de culture commune, par exemple. Actuellement, la seule vraie culture commune, c'est l'aviation. Parce que si les avions tombent pas, c'est parce qu'il y a des règles mondiales en matière d'aviation. Il n'y a aucune autre règle mondiale en matière de banque, n'importe quoi, il n'y a pas de règle mondiale. Mais l'aviation, oui, c'est obligatoire. Donc, petit à petit, il y aura d'autres éléments de cette culture commune, notamment, par exemple, en matière écologique. Là aussi, c'est obligatoire, parce que sinon, on sera tous morts. Et la grande question, c'est que comment on va faire pour ne pas mélanger toutes ces diversités dans une espèce de grande soupe collective? Une culture commune, je pense que ça serait presque la perte, au fond, de ces diversités. C'est comme si vous me disiez, il n'y aura plus que des platanes sur toute la planète. Ça serait extrêmement dommage.
Jean Vierre, vous qui vous intéressez au phénomène touristique, comment voyez-vous tous ces retraités français qui sont de plus en plus nombreux à partir pour s'installer en Tunisie, au Maroc, en Afrique ou autre? Pour des raisons économiques, essentiellement.
Oui, enfin, les raisons ne sont pas qu'économiques, mais des fois, ça me crée un certain malaise. Et en même temps, ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, c'est la grande migration des retraités. C'est-à-dire, si vous voulez, le tourisme, ça a été l'événement structurant depuis la dernière guerre. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des dizaines et des dizaines de millions de retraités dans tous les pays développés qui entrent en mouvement. On dit toujours, il y a 50 000 retraités qui quittent Paris par an. Bon, et tout ça, dont certains vont aller s'installer, on le voit au Sénégal, sur les côtes, etc. D'autres vont dans le sud de la France, d'autres vont repeupler le Massif central, etc. Donc, on est dans un monde où, au-delà de 55-60 ans, on commence une nouvelle vie et on va la commencer ailleurs. Et on va essayer, au fond, de vivre sa retraite sur le modèle des vacances, puisque souvent, c'est un modèle qu'on a aimé. En plus, on est encore jeune, on fait encore l'amour, etc. On a une vie normale. Bon. Et donc, on n'est pas juste en fin de vie. Et donc, petit à petit, le retraité, j'allais dire, il va couvrir la carte touristique. Alors, avec des problèmes différents, parce qu'il est là tout le temps, parce qu'il a un autre enjeu, d'autres pouvoirs d'achat, etc. Et donc là, ça ne fait que balbutier, ce processus-là. Mais je pense qu'il faut s'en préoccuper. Là aussi, il faut le réguler, parce qu'on ne peut pas aller s'installer n'importe où. Quand je dis on va passer de la migration à la mobilité, ça ne vaut pas que pour les gens qui viennent du Sud, ça vaut aussi pour les gens qui viennent du Nord.
C'est une nouvelle forme de colonisation ?
C'est une forme, si vous voulez, je veux dire, l'argent ne permet pas tout. Et donc la question, c'est pas simplement parce que je peux m'acheter quelque chose, que je peux m'acheter un terrain. Regardez ce qui se passe en matière agricole. Il y a des pays qui achètent des millions d'hectares dans des pays non agricoles. Ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à ce qu'on a appelé colonisation. Est-ce que parce qu'on est riche, on peut aller s'acheter des terrains dans des pays pauvres ? La réponse doit rester non, d'une certaine manière. Donc comment on régule un droit à la mobilité qui n'est pas le pouvoir du riche sur le pauvre ? Pour l'instant, c'est plutôt quand même le pouvoir du riche sur le pauvre.
Si les migrations ont augmenté ces dernières années, il est plus que probable que la crise et la remontée du chômage vont les freiner. Les Bulgares et les Roumains en font déjà la mère expérience, puisque 4 pays seulement de l'Union européenne ont décidé de lever les restrictions de circulation. À leur égard, 11 autres États, dont la France, ont choisi de les maintenir. Pour beaucoup de migrants, il y a un vrai risque de retour forcé. François Hacher, sociologue et professeur à l'Institut français d'urbanisme.
Qu'est-ce qui va se passer dans le contexte, non pas de la récession, non pas de la crise, mais de la dépression qui, aujourd'hui, apparaît comme de plus en plus probable et quasi certaine? C'est-à-dire, quels vont être les effets sur les dynamiques migratoires de la dépression?
Mais on voit par exemple qu'un certain nombre de Mexicains ont quitté les États-Unis et sont rentrés chez eux.
Alors, premier élément, effectivement, est le retour, puisque le marché de l'emploi n'est plus attractif. Donc je pense qu'on va arriver dans une période où le problème de l'immigration se posera en des termes complètement, sensiblement différents, et où on ne parlera plus de pression migratoire comme on en parle aujourd'hui, et où le contrôle aux frontières se posera peut-être dans des termes sensiblement différents. En même temps, il faut voir quand même que la situation dans les pays en développement risque d'être encore plus dramatique que dans les pays développés, et surtout dans les pays qui avaient commencé leur développement. Si vous prenez un pays comme le Brésil, qui avait pratiquement arrêté d'émigrer, là, quels sont les phénomènes qui vont s'y passer? Parce que la crise risque d'y être redoutable. Donc, on va avoir d'un côté un marché de l'emploi qui sera moins attractif, et de l'autre côté, des conditions dramatiques qui peut-être vont engendrer une nouvelle immigration, et l'immigration peut-être de couches sociales différentes, parce que même des couches qualifiées vont se retrouver sans emploi et peut-être contraints à migrer. Donc là, moi, je crois que la prospective des effets de la dépression, c'est quelque chose sur lequel il faut commencer à réfléchir. Il va y avoir un changement de paradigme et on va se retrouver pris à contre-pied par rapport à de nombreuses politiques que l'on a pu mener. Je pense que c'est ce type de réflexion, en tout cas, qu'il faudrait essayer de développer.
Cette crise que nous commençons à vivre pourrait bien donc changer la donne. Les départs contraints pour cause économique ou environnementale risquent peut-être de toucher ceux qui se croyaient à l'abri. Peut-être faudrait-il se préparer à la nouvelle donne, comme on s'est préparé au début des années 80, sous la pression du chômage, à séduire les employeurs à coups de diplômes et de compétences diverses. Catherine Vitold-Vinden, directrice de recherche au CNRS Série, qui publie ces jours-ci une nouvelle édition de la Tasse mondiale des migrations aux éditions Autrement.
C'est vrai que la migration, elle est d'autant plus valorisée qu'elle est une rareté. Alors, il y a des catégories de migrants qui sont particulièrement désirées. Aujourd'hui, beaucoup de pays d'accueil désirent des très qualifiés. Mais en même temps, beaucoup de pays d'accueil ont besoin aussi de peu qualifiés, ou tout au moins de gens qui sont considérés comme peu qualifiés, même si ce n'est pas nécessairement la réalité, mais pour s'occuper des personnes âgées, tous les métiers du tourisme, etc.
Les infirmières, notamment.
Donc, il y a une demande dans certains secteurs, malgré la crise. Parce que le vieillissement de la population en Europe, au Japon, en Russie, c'est une réalité. Donc ça, ce besoin-là, il est pas complètement compressible, même si on a une crise économique importante. Et le désir de très qualifiés, c'est un désir qui échappe aussi en partie à la crise, parce que les pays vieillissants se disent avoir des très qualifiés, c'est aussi avoir des gens qui sont créatifs, c'est avoir plus de compétitivité, c'est des gens plus jeunes, etc. Donc c'est considéré comme un plus pour tous les pays d'accueil. Donc ça, c'est un élément qui, à mon avis, est capable de résister à la crise. En revanche, les secteurs où éventuellement il y a une certaine flexibilité de l'emploi et où des nationaux en chômage sont prêts à prendre les emplois des migrants, on peut imaginer qu'il y aura moins de demandes.
Est-ce que le phénomène de la migration, ça peut accélérer le développement, à moins que ce soit l'inverse?
C'est les deux en même temps. Et c'est un thème pour lequel les scientifiques n'ont pas réussi à convaincre les décideurs. Les décideurs ont entendu le discours des chercheurs sur la circulation migratoire, l'idée que les gens, s'ils circulent, c'est mieux, etc. Si les frontières sont ouvertes ou entrouvertes, les gens circuleront plus. Je crois que ça, c'est un discours qui a été un tout petit peu entendu, parce que même les pays européens, y compris la France, ont entrouvert leurs frontières à partir de 2005, en gros. Ce qui n'est pas entendu, c'est les relations entre migration et développement. Parce que beaucoup de pays pays d'accueil fonctionne sur l'idée que le modèle, c'est le modèle espagnol ou portugais ou italien. C'est-à-dire que ces pays se sont développés, peut-être davantage à cause de l'Europe d'ailleurs qu'avec leur propre développement, notamment pour le Portugal ou la Grèce. Mais l'idée, c'est que le développement, c'est le point final de la migration. Et dans les pays du Sud aujourd'hui, dans les configurations que l'on voit, on constate que plus il y a de développement, plus il y a de migration. Plus il y a de migration, plus il y a de développement. C'est-à-dire que les deux fonctionnent en même temps. Parce que la migration, elle apporte des transferts de fonds, on l'a déjà dit. Ça transforme parfois un petit peu les sociétés, notamment les sociétés les plus bloquées. Ça ouvre sur l'extérieur, ça peut changer le statut de la femme éventuellement. Ça peut un tout petit peu démocratiser certains régimes, etc. Donc la migration est un facteur de développement au sens large, de développement culturel, en termes d'information, etc. Et le développement induit de la migration. Par exemple, si on a moins de secteurs traditionnels, comme l'agriculture, etc., on a de plus en plus d'urbains dans le monde, ça crée de la mobilité. Parce que les gens, en ville, ben, c'est là qu'il y a les foyers d'information pour partir, bouger, etc. Et donc, on va avoir un nouveau besoin de migration si les gens sont plus scolarisés et si les gens sont plus urbains. Et c'est ce à quoi on assiste dans beaucoup de régions du monde où il y a aujourd'hui une très grande mobilité.
Une urbanisation galopante. Il y avait 527 millions de citadins en Chine en 2005. Ils seront 926 millions en 2025. Un volume de transfert de fonds qui dépasse les aides au développement. Une fracture démographique telle que les pays riches ne survivront pas sans leurs émigrés. Les ingrédients sont réunis pour que l'on s'attelle profondément et vite à regarder demain en face. Les Entrepreneurs a été réalisé par Stéphane Le Guenec avec Arnaud Chapat. Documentation Corinne Chauvel, assistante Marion Levet. Didier Hadès,
Dominique Dambert.
Nous nous retrouvons dans une semaine tout juste.